ce soir, on va parler de la question de l'écoute et du travail intérieur de l'écoute, et de l'écoute dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure. C'est pas souvent un thème qui est abordé. On pense souvent à l'écoute dans le cadre d'une relation d'aide, mais on ne pense peut-être pas assez à l'importance de l'écoute dans le cadre de notre vie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire écouter ? Parce que quand on y regarde de près, le premier commandement que Jésus rappelle et qui prend déjà de la Torah, du Décalogue, il dit, le premier commandement c'est écoute. Écoute Israël. Et ce n'est pas pour rien que le premier commandement commence par écoute. C'est que dans ce fait d'écouter la parole de Dieu, il y a toute une attitude intérieure qui est développée. Ça nous est difficile d'écouter aujourd'hui parce que on peut constater qu'on est inondé d'une certaine quantité de paroles, mais qui n'a pas de réciprocité. On pense à la radio, la télévision, tous les discours qu'on peut entendre. On entend plus que l'on écoute. Il y a une sorte de bruit de fond permanent dans nos sociétés et dans nos vies. Cette peur du silence. En revanche, il y a un grand désir d'être écouté. Parce que dans le fait d'être écouté, l'être humain prend conscience de quelque chose de lui-même. Il s'exprime, il y a quelqu'un qui l'écoute. Donc ça c'est un peu comme une introduction de dire à la fois c'est un commandement, c'est-à-dire c'est une invitation du Seigneur à écouter sa parole, mais à la fois la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour écouter. Et qui est peut-être beaucoup plus typique de notre temps, hein, par cette abondance de paroles sans réciprocité. Parce qu'au fond, le fait d'écouter, ça renvoie à une attitude contemplative. Et c'est là où, au niveau spirituel, c'est important. C'est, j'accueille quelque chose qui ne vient pas de moi. Je suis dans une attitude de disciple. Et j'aimerais reprendre quelque chose de la règle de Saint Benoît. Dans la règle de Saint Benoît, à la suite de tous les pères monastiques, ça commence comme ça. Écoute, mon fils, les leçons du maître, incline l'oreille de ton cœur, accueille volontiers les avis d'un tendre père et mets-les effectivement en pratique afin de retourner grâce au labeur de l'obéissance à celui dont tu t'étais détourné par la lâcheté de la désobéissance. Et donc, Saint Benoît, et c'est toute la règle de Saint Benoît, mais aussi des spirituels, voit l'écoute de la parole de Dieu comme un chemin d'obéissance et de communion avec Dieu. Et vous savez ou vous ne savez pas que le mot « obéir » vient du latin « ob audire », c'est-à-dire « écouter à partir de quelque chose ou de quelqu'un ». Donc écouter, c'est déjà rentrer dans une attitude d'obéissance face à celui qui parle. Une certaine attitude de docilité. Et c'est vrai que par rapport à la parole de Dieu, on a souvent ce manque d'attitude de docilité. Hein, parce que précisément, on ne veut pas se laisser déterminer, c'est notre orgueil, on ne veut pas se laisser déterminer par une parole qui n'est pas la nôtre. Alors tout le travail spirituel, ce sera un vrai travail, c'est de faire nôtre la parole de Dieu. Mais ça implique d'être dans une attitude d'humilité, de disponibilité. Écoute, mon fils, regarde et tends l'oreille. Se laisser déterminer par quelqu'un d'autre. Dieu lui-même qui, à travers les moyens humains, s'adresse à nous. Et donc, au fond, on voit que l'écoute, c'est toute une attitude spirituelle. Parce que écouter Dieu, c'est aussi l'écouter dans la réalité, dans le réel qui nous parle. Et on peut avoir une certaine forme de surdité face au réel, de non-acceptation, de non-disponibilité face au réel que chacun d'entre nous on a à vivre, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des relations familiales, conjugales, relations professionnelles, relations ecclésiales, que sais-je. Il y a aussi cette attitude d'écoute, d'accueil. Et c'est très profond, je vous assure, c'est très profond parce que c'est au fond toute l'attitude de la créature face au Créateur. Et l'abondance de bruit auquel on assiste actuellement, de bruit de fond et dans nos vies aussi, ça dit quelque chose aussi de cette situation dans laquelle l'homme moderne est, de sa séparation avec Dieu. Il n'écoute plus. Parce qu'il ne veut pas non plus obéir. Le disciple, c'est celui qui écoute. Être disciple de Jésus, c'est d'abord l'écouter. Et en l'écoutant, se laisser transformer par sa parole. Donc saint Benoît présente au fond l'écoute comme un vrai travail, un labeur intérieur d'obéissance, d'humilité, une sorte de travail parce que on a un handicap spirituel profond avec le péché originel, cette incapacité d'écouter Dieu. Ce n'est plus spontané. On ne fait plus spontanément confiance au Seigneur. Ça demande une vraie décision intérieure. Le premier niveau de l'écoute, on peut voir les différents niveaux, hein. Le premier niveau de l'écoute, c'est une écoute intellectuelle. Écoute, mon fils, les leçons du maître, comme dit saint Benoît. Et c'est vrai que nous avons aussi besoin d'une conversion de notre intelligence. Est la plus difficile, c'est rentrer dans la manière de faire de Dieu, dans la manière de penser de Dieu, dans sa manière d'agir. Et donc c'est au fond cette invitation à méditer, hein, la parole de Dieu. Et on voit dans la deuxième lettre à Timothée, tous les passages, dit saint Paul, de l'écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Donc le premier travail de rééducation spirituelle, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on est tous au niveau spirituel handicapé, le premier travail de rééducation spirituelle, c'est d'abord le travail de l'écoute. Se laisser touché par la parole de Dieu, mais aussi dans notre intelligence. Ça veut dire l'accueillir aussi avec bienveillance. Et dans l'écoute aussi tout simplement mutuelle, fraternelle, c'est important cette bienveillance. C'est important parce que si on n'a pas cette bienveillance, celui qui parle ne peut pas dire tout ce qu'il a à dire. Si je sentais là en ce moment, ce qui n'est pas le cas, mais une réticence, un jugement, une sorte de d'esprit aussi de contradiction, mais plus de contradiction, de toujours chercher la petite bête, vous voyez, hein, voir le point noir dans la page blanche, évidemment je ne m'exprimerai pas avec la même liberté que je m'exprime maintenant. C'est pas pour une personne humaine, mais je veux dire, d'une certaine manière, pour Dieu aussi, on reçoit la parole de Dieu à la mesure que l'on a du désir de l'écouter. Donc, écouter avec un cœur large et bon. Ce deuxième niveau d'écoute. Incline l'oreille de ton cœur, dit saint Benoît. C'est un niveau plus profond, donc non seulement intellectuellement, mais plus profond, où l'on commence à réagir sur la manière dont se situe le désir vis-à-vis de Dieu. Est-ce que l'on veut faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a le désir de le suivre? Est-ce qu'on se laisse labourer par la parole de Dieu comme la terre par le laboureur, pour qu'il puisse semer? Ou est-ce qu'on a une attitude de rébellion, d'une certaine dureté intérieure? Et c'est vrai, dans cette écoute, au fond, il y a une certaine simplicité, c'est-à-dire dans le sens de unification. Plus on écoute le Seigneur, plus on s'unifie autour de la parole de Dieu. Plus notre désir, au lieu d'être éparpillé à mille choses, faire mille choses, vous courir partout, il s'unifie. Et donc, on s'apaise intérieurement. D'où aussi toute l'importance du silence dans notre vie. Et c'est vrai que si on passe par de la multiplicité des désirs à l'unique amour de Dieu, cela nous fait au fond aimer les autres et la réalité qui est la nôtre, d'une façon qui n'est pas sélective, mais au contraire qui accueille l'autre tel qu'il est. Parce que j'ai appris à écouter. C'est une sorte de pédagogie. À écouter Dieu, j'écoute mon prochain proche, j'écoute la réalité qui est aussi cette volonté de Dieu, j'écoute mon frère peut-être plus éloigné. Comme c'est difficile. D'une certaine manière, écouter, c'est une attitude de pauvre. C'est se laisser transformer par une parole. Et quand c'est une parole humaine, c'est une chose, mais quand c'est la parole de Dieu, elle porte avec elle le fruit de sa semence. Elle ne retournera pas sans avoir porté du fruit, comme le prophète Isaïe. Et c'est vrai que bien souvent, nous ne sommes pas assez unifiés, donc on écoute un peu ce que l'on veut, on est esclave de nos désirs un peu écartelés. L'écoute avec le cœur, non seulement l'intelligence, mais le cœur, est la source d'une unité retrouvée. Il y a une sorte de troisième niveau de guérison de notre écoute, parce qu'on a une certaine surdité par rapport à la parole de Dieu, ou méfiance, ou surdité, méfiance intellectuelle, mais aussi une sorte de... Il peut y avoir un raidissement de notre cœur qui fait que on n'accueille pas cette parole de Dieu, on ne se laisse pas transformer par elle. Mais aussi la parole de Dieu, elle recrée. Elle nous fait nouveau. Elle nous engendre. Accueille volontiers les avis de ton Père, dit saint Benoît. C'est-à-dire celui qui t'engendre. Accepter d'être engendré à une vie nouvelle. C'est ce que dit Jésus à Nicodème en Jean 3:3. À moins de renaître, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est vrai que le chrétien, peu à peu, avec cette écoute de l'intelligence, cette écoute du cœur, cette écoute aimante de la parole de Dieu et du Père, découvre avec beaucoup de patience aussi sa dimension de créature face au Créateur, qu'il est relatif à une parole. Et cette parole de Dieu, elle porte en elle-même son efficacité. Il dit et cela fut. Évidemment, c'est le cas dans l'Eucharistie, où le prêtre, quand il consacre, par grâce de Dieu, il dit les paroles de Jésus et cela fut. C'est-à-dire, il y a vraiment cette attitude intérieure d'accepter, d'accueil, que le pain est transformé dans le corps du Christ. Nous croyons en la parole de Jésus. Croire en Jésus, c'est croire en sa parole. Et ce qu'il dit, c'est vrai. C'est ça, croire en Jésus. quand il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est vrai. C'est pas simplement une illusion. Donc ce troisième niveau de guérison aussi de notre écoute, c'est accepter d'être engendré à la vie nouvelle, de se découvrir relatif à une origine qui n'est pas nous. On se découvre engendré par Dieu. Et évidemment, à ce moment, c'est au niveau le plus profond de la personne où nous sommes recréés, réengendrés, par la parole de Dieu, par l'écoute aimante et intelligente de ce que Dieu nous dit dans sa parole et dans la réalité. La réalité qui est aussi parole de Dieu. Donc c'est une attitude de pauvre, au fond. C'est pour ça que le fait d'écouter, c'est très lié avec un cheminement spirituel. C'est une attitude de pauvre. C'est une attitude de dépouillement intérieur. D'une attitude, on peut dire dépouillement intérieur, puis d'une certaine manière de... de décentrement de nous-mêmes. On est tellement centré sur nous-mêmes. Le fait d'écouter, ça nous décentre. Et donc, c'est une pédagogie, puisqu'on a été à même d'écouter avec l'intelligence, le cœur, et avec le plus profond de notre être, la parole de Dieu, on sera aussi à même, plus à même en tout cas, d'écouter celui qui est à nos côtés. Celui qui demande notre écoute. Et c'est surtout vrai dans une société qui est de plus en plus individualiste, et où les personnes sont de plus en plus enfermées. Il y a beaucoup de besoin d'écoute. Alors nous, on le voit dans un niveau spirituel, mais au niveau simplement psychologique, il y a un grand besoin d'écoute. Et c'est vrai que pour le disciple de Jésus, sans ce chemin d'écoute, il n'y aura pas de vraie paix intérieure. Et c'est le don de l'Esprit Saint qui va nous faire écouter la parole de Dieu, mais comme si elle jaillissait de l'intérieur de nous-mêmes. Si elle nous recréait de l'intérieur. Si on ne renaît pas d'en haut, ben on n'y rentrera pas. Si on ne devient pas comme des enfants, on n'y rentrera pas. Donc au fond, c'est ça ce qui est beau, c'est l'écoute, c'est ce qui nous fait aussi redevenir plus enfants, plus dépendants du Père, de l'amour du Père. Et le carême est un temps particulier où on développe cette écoute. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Et donc c'est bien de sonder aussi dans nos vies où est-ce qu'il y a une dureté, où est-ce qu'on ne veut pas écouter, accueillir, obéir à cette réalité que Dieu nous donne, ou à sa parole. Est-ce qu'il y a encore cet orgueil où nous nous estimons, nous, supérieurs à la parole de Dieu? Dieu dit, mais moi je dis. Donc on voit que c'est le fruit d'un combat spirituel, et d'un combat pour l'humilité. Ce combat, c'est la deuxième partie, donc l'écoute comme un labeur, ensuite le combat spirituel pour l'écoute, il peut prendre trois formes. Premièrement, un silence, on pourrait dire habité, ensuite l'obéissance, et ensuite l'humilité, qui sont les trois moyens que nous avons d'écouter. Tout d'abord, le silence habité. Et c'est vrai que c'est un travail difficile que de faire silence intérieurement. Un silence qui n'est pas mutisme, enfermement sur nous-mêmes, mais le silence qui devient prière. Vous un silence qui n'est pas vide. C'est pas être muet sans parole, c'est pas ça simplement le silence. C'est un silence habité. Hein, pour que cette parole de Dieu qui nous est révélée atteigne toute son efficacité en nous. Il était nécessaire qu'elle soit prononcée dans, et écoutée dans un climat de silence. Donc, le premier combat pour l'écoute, c'est le combat pour le silence. Là aussi, qu'est-ce qu'on a comme temps de silence dans notre vie? Pas facile, hein? Est-ce que même dans les trajets, est-ce qu'on est tout de suite on met l'autoradio? Est-ce qu'on a un temps de silence? Sachant que si on ne veut pas le prendre, ce ne sera pas la société ambiante qui nous aidera à le prendre. Mais ce temps de silence qui est vraiment une condition sine qua non pour se mettre à l'écoute, pour prendre aussi une distance par rapport à ce que nous vivons. Non seulement prendre une distance, mais en même temps demander un éclairage, demander une lumière. Et c'est vrai que dans la vie monastique, où on a le désir d'écouter la parole de Dieu, ça va de pair avec l'apprentissage du silence. Le silence qui est l'attitude de celui qui demande une parole, de celui qui est humble. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Le deuxième point, c'est l'obéissance, qui est aussi un combat intérieur. On dit écouter, obéir, c'est la même racine. Spontanément, on ne sait pas obéir. Ça s'apprend. Donc, par l'obéissance, on apprend à réaliser la parole qui est entendue, à la mettre en pratique. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc cette parole de Dieu, elle entraîne aussi des actes dans notre vie. La réaliser, c'est-à-dire la rendre réelle, vivante, agissante. Par notre manière d'être, notre manière de parler, d'écouter. Au fond, dans cette obéissance, c'est reconnaître que j'ai besoin de me laisser conduire par le Seigneur. Et donc, c'est aussi un don qui nous est fait, comme dit l'Écriture, pour courir le cœur dilaté dans la voie de tes commandements. C'est à travers cette obéissance et cette écoute qu'on retrouve une certaine maturité. Cet esprit d'enfance qui consiste au fond à accueillir la parole de Dieu telle qu'elle est, à la laisser agir sans lui opposer résistance. L'obéissance qui est la vraie maturité. Le troisième point qui nous est donné pour méditer sur cette parole de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité qui est le terreau, hein, humus, ça vient de humus, terreau, dans lequel la parole de Dieu va pouvoir porter du fruit. Hein, cet esprit d'humilité qui est aussi celui du disciple et du serviteur. Donc cette humilité qui va être aussi ce chemin du cœur qui nous amène à une plus grande vigilance, à une plus grande attention. C'est ça aussi, l'écoute au réel qui nous entoure, à Dieu qui se manifeste, qui parle. Mais aussi cette humilité qui consiste à être un veilleur qui reste attentif à la parole de Dieu, qui cherche les traces dans notre monde de la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est vivante. Donc être veilleur, c'est aussi être écoutant. Un autre point aussi qui est important, c'est de faire mémoire ensemble pour écouter. Si on fait mémoire ensemble de la parole de Dieu, qu'on l'écoute ensemble, du coup, elle est, cette parole de Dieu, active aujourd'hui. Cette parole de Dieu, elle est aujourd'hui, elle est présente. parce qu'on fait mémoire. Et vous savez bien que le fait de faire mémoire pour le peuple juif, et le christianisme a repris ça aussi, dans le monde biblique, le fait de faire mémoire, c'est pas simplement un acte du passé. La mémoire, c'est la faculté du présent pour l'homme de la Bible. C'est la faculté du présent. Et donc, dans la liturgie, on fait mémoire, on rend présent le Seigneur lui-même. C'est ça de l'Eucharistie, c'est on fait mémoire de la passion, de la mort, de la résurrection de Jésus, et il est là présent, au milieu de nous. Donc, au fond, dans l'écoute et dans le fait de faire mémoire, c'est une sorte de réactualisation du mystère de la liturgie qu'on vit. On va vivre la semaine prochaine le temps de la semaine sainte. Ben, c'est vraiment vivons-le dans la foi comme la grâce qui nous est donnée de vivre aux côtés du Seigneur, crucifié, mort et ressuscité. Non pas comme simplement un événement du passé. Ça réactualise. Donc écouter, c'est faire mémoire. Et donc c'est par l'écoute, au fond, toute une éducation qui nous est proposée. Alors c'est vrai que la Vierge Marie est celle qui nous donne cette attitude d'écoute. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. La Vierge Marie qui écoute comme celle qui accueille la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle rencontre une âme qui écoute et elle se fait chair. Et le Jean-Paul II dira, Marie a conçu le Verbe de Dieu, a conçu dans son sein Jésus, d'abord par sa foi, avant de le concevoir par la chair. Elle l'a conçu par la foi. C'est d'écouter avec foi la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle est appelée la mère des croyants, parce qu'elle l'écoute avec foi, elle fait confiance. Écouter, c'est faire confiance. On n'écoute pas quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. La Vierge Marie qui nous enseigne cette obéissance, ce silence. Elle était chez elle au moment de l'Annonciation. Chez elle, non seulement matériellement, dans sa maison, mais chez elle, elle était en elle, recueillie. La Vierge Marie, qui évidemment nous enseigne l'humilité. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle ne comprenait pas forcément tout, comme nous, on ne comprend pas forcément tout, mais on garde ces choses dans notre cœur. On les accueille. Elles germeront au temps voulu, à un temps, une rencontre, un événement particulier qui va faire que telle parole du Seigneur va pouvoir va pouvoir éclore. Alors, est-ce que notre écoute peut être parfaite? C'est une question qu'on peut se demander. Ça demande un travail intérieur, ça on l'a vu, hein, ça c'est pas facile. On a le grand désir d'être écouté, mais est-ce que nous on est capable d'écouter? Et c'est vrai qu'on voit que, au fond, l'écoute, elle est toujours limitée, notre écoute. Elle est limitée d'une part du côté de celui qui parle et qui n'est pas toujours en mesure de communiquer ce qu'il souhaite. Il n'est pas toujours en mesure de parler. Certaines personnes qui, par exemple, n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur leur souffrance. D'autres qui n'arrivent pas à faire confiance et donc qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc l'écoute, elle n'arrive pas parce que celui qui s'exprime a de la difficulté à s'exprimer. Mais aussi de notre côté, d'autre part, c'est qu'elle n'est pas parfaite parce qu'on n'est pas dans cette attitude de désappropriation, de pauvreté. On veut tout de suite mettre dans l'écoute nos grilles de jugement. Et quand on accompagne spirituellement des personnes, on voit bien comment c'est exigeant de, on demande ça dans la prière, mais au fond de renoncer à tout de suite, tac, on me dit quelque chose, je pense à ceci. Non, d'aller jusqu'au bout de l'écoute de l'autre. C'est vraiment dépouillant. Et pas tout de suite faire des plans. Hein. pour que l'autre doive agir de cette manière ou d'une autre. Et il faut souvent beaucoup de temps pour qu'un climat de confiance soit créé et puisse se mettre en place. Du côté de l'écoutant, ce qui empêche aussi une bonne écoute, c'est, donc on dit le manque de disponibilité à l'autre, le manque de temps, le manque de liberté par rapport à ses propres émotions comme écoutant. On est envahi par tout ce qu'on a à faire, pris par un certain activisme, pas assez réceptif, trop encombré de nous-mêmes, que ce soit dans l'écoute de Dieu ou dans l'écoute du frère. Mais aussi, on n'arrive pas vraiment à écouter parce que on n'arrive pas à trouver la bonne distance par rapport à la personne que l'on a en face de nous. C'est pas facile, il faut à la fois accueillir, mais à la fois pas fusionner avec les difficultés des personnes que nous écoutons quand certains se confient. Garder une distance. Et du côté de l'écoutant, la difficulté, parfois, elle vient de là. Soit on est trop proche, et donc on fait un avec l'autre, soit on est trop loin parce qu'on a peur d'être ébranlé, d'être dérangé dans son propre mode de fonctionnement. Et on veut retrouver, on veut que l'autre rentre dans notre mode de fonctionnement. Mais si j'étais à votre place, je ferais, voilà ce que je ferais. Or, justement, on n'est pas à sa place. Et parfois, on a cette attitude d'écoute sélective. Certaines choses, on écoute, d'autres, non. Que ce soit face au prochain, face à la parole de Dieu. Et on voit bien que quand, par exemple, il s'agit de relater un événement que plusieurs personnes ont vécu, chacun va le relater avec ses mots et va mettre, en fonction de sa perception du réel, l'accent sur telle ou telle chose. Donc c'est une manière sélective, qui est un petit peu inévitable. Donc on a un certain filtre. Donc au fond, il y a besoin d'un vrai travail sur soi-même pour être capable d'écouter. Être capable de parler, de s'exprimer, n'est pas toujours simple, on l'a vu, mais le fait d'écouter demande un travail important sur soi-même. Être accueillant, être attentif, renoncer à des préjugés, c'est ça qui va permettre l'écoute bienveillante du cœur et de l'intelligence. Être assez construit aussi, je me rends compte comment font le fait d'écouter, surtout dans une relation d'aide, hein, ça demande d'être assez construit pour pas se laisser détruire par celui qui parle. Et qui parfois peut nous amener un certain nombre de choses qui nous déstabilisent. Ça veut dire aussi prendre que la personne qui écoute, donc l'écoutant, qu'il prenne une certaine distance par rapport à ses propres émotions. Lorsque l'autre parle, quand je parle, là en ce moment, il y a des émotions qui naissent. Bon, là, ce n'est pas une relation d'aide directement, mais quand on est dans une relation soit d'éducation, soit de. Même, je pense à tout simplement, dans les entreprises, il y a toujours ce bilan annuel de dire, ben voilà, qu'est-ce que vous avez vécu, etc. C'est pas facile d'écouter ce que, ou dans une relation, ou avec des élèves, ou avec. De dire, ben, qu'est-ce que vous avez vécu. Et on, parfois, on voit bien que l'autre n'est pas prêt à entendre un certain nombre de choses. Donc, ça demande que la personne qui écoute soit suffisamment construite et puisse se laisser remettre en question. N'aie pas peur de la parole de celui qu'elle a en face de lui. Au fond, ça demande tout un travail de maturité spirituelle. Parce que même écouter la violence, par exemple, ça c'est toute mon expérience comme aumônier de prison, écouter des personnes violentes, c'est très important d'écouter une personne violente. Parce que c'est sa manière de se dire. Alors on en prend plein de museaux et bon, pas forcément super marrant, ça on est bien d'accord, mais c'est sa manière, s'il se sait écouter dans sa violence, il sait qu'il pourra faire confiance aussi. Mais là, ça demande une sacrée vie de prière derrière, hein, pour ne pas être détruit par la violence de l'autre. Donc, la qualité de l'écoute suppose un vrai travail spirituel sur soi-même et humain. Et on a beaucoup de mal à laisser s'exprimer une personne, surtout qui est souffrante. Hein? Comme on a du mal à accepter ça, parce que ça nous renvoie, nous aussi, à notre manière de voir la souffrance, de voir la mort, de voir la maladie. Donc ça peut nous secouer très fort. Ça peut nous angoisser. On peut avoir des peurs face à certaines personnes. On voit ça, le fait, oh là, celui-là, s'il vient me voir, oh, attention, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est garder une paix intérieure pour accueillir chacun. C'est pas simplement humain. C'est ça qui est important, parce qu'il y a beaucoup de formations à l'écoute, etc., etc. Nous, on se place pas dans ce domaine-là. Hein, c'est pas une formation psychologique, même s'il y a des aspects psychologiques. Mais c'est d'abord une formation spirituelle. On progresse dans l'écoute en progressant tout simplement dans l'union à Dieu et dans l'écoute du Seigneur. Et c'est vrai que les personnes qui savent vraiment écouter, c'est les personnes qui sont proches de Dieu. Les personnes qui ont été, de certaine manière, pacifiées. Alors c'est vrai que l'écoute, d'une certaine manière, est simplement un moyen, c'est pas une finalité. Et on parle beaucoup de lieux d'écoute, de cellules d'accompagnement, etc. Dans le cas de... c'est un moyen qui est donné. Mais qui doit conduire d'abord à un niveau de relation plus profond. Qui invite à que la personne se construise. Parce qu'il y en a aussi qui se racontent, c'est ça la question. Il y en a qui se racontent, qui ne sait jamais de parler d'eux. Et c'est jamais suffisant. Le fait qu'ils ne sont jamais assez écoutés. Alors, ça aussi, il faut savoir mettre un terme. Pour justement que la personne se construise à terme. Donc, l'écoute, c'est simplement du domaine du moyen. Pour donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent se construire et s'unifier. Et évidemment, c'est autour de cette parole du Seigneur, dans cette intimité auprès du Seigneur, qu'elles vont pouvoir le faire. Voilà un peu ce que je pensais vous dire donc sur cette question de l'écoute.